Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal. Comment l'être humain s'est-il mis à reproduire des couleurs ? La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 8, des couleurs de Vinci et des pigments. Le travail du peintre va bien au-delà de la simple reproduction des formes et des couleurs, et la matière, la manière dont l'œuvre réfléchit la lumière, importe tout autant que le choix du pigment. C'est bien de pigments et de couleurs qu'on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui, en commençant par Léonard de Vinci en guide d'introduction à cette deuxième partie de la saison qui s'attache à étudier la manière dont nous autres humains reproduisons les couleurs. Nous remonterons ensuite plus de 60 000 ans en arrière pour commencer notre voyage à travers la couleur par les tout premiers pigments de l'histoire de l'humanité. On pourrait croire que les couleurs, dont la vision est le résultat d'une évolution naturelle qu'il a sélectionnée, perfectionnée et adaptée à des besoins spécifiques, on pourrait croire donc que ces couleurs pourraient avoir une symbolique et des usages universels, mais en fait il n'en est rien. Si on veut explorer la manière de reproduire, d'utiliser et d'interpréter les couleurs, il faudra toujours le faire dans un contexte temporel, géographique et culturel donné. J'ai pensé dans un premier temps faire cette exploration par couleur, comparant par exemple comment le rouge est reproduit, perçu, utilisé ou interprété à travers les lieux et les âges. Mais si cette manière de faire aurait été ludique, je pense pas qu'elle aurait été pertinente pour vraiment comprendre la couleur en général et ses usages, et pour découvrir justement en quoi elle est essentiellement subjective et culturelle. Parce que non, le rose n'est pas plus une couleur féminine que le bleu est une couleur masculine. Ce genre d'association ne repose sur aucune réalité physique ni biologique, et n'est que le résultat d'un contexte socio-culturel. La compréhension de la couleur et sa perception est d'ailleurs très liée au langage, et on peut, rien qu'en étudiant la langue, découvrir des associations et une symbolique des couleurs, possible ou pas. Par exemple, dans le breton, l'islandais, le chinois ou le japonais, il n'y a pas de mot distinct pour différencier les teintes bleues et vertes, et il est donc assez improbable que ces teintes aient une interprétation symbolique distincte pour les locuteurs de ces langues. En chinois, qing désigne aussi bien le bleu que le vert, et le kanji ao signifie bleu, mais sert aussi pour désigner la couleur des légumes verts. Il semble toutefois y avoir une sorte de hiérarchie dans les contrastes qui peuvent être décrits dans les langues. Les anthropologues Brent Berlin et Paul Kay ont étudié les termes qui désignent spécifiquement les couleurs, comme par exemple noir, blanc ou rouge, dans plusieurs dizaines de langues, en excluant ceux qui font référence à un objet caractéristique, comme azur ou jade. Ils constatent alors que quand une langue n'a que deux termes au total qui désignent spécifiquement des couleurs, c'est toujours le blanc et le noir. Si elle a trois termes qui désignent des couleurs, alors c'est le noir, le blanc et le rouge. S'ajoute ensuite soit le vert, soit le jaune, puis le bleu, ensuite le brun, et finalement le violet, le rose, l'orange ou le gris. Alors si l'ordre exact d'apparition des termes n'est pas tout à fait figé, il reste raisonnable de considérer que l'opposition noir et blanc ou sombre et lumineux semble tout à fait primordiale, tout comme le contraste entre ce couple et le coloré, le teinté en général, et le rouge en particulier. Cette constatation ne nous surprend pas après avoir compris que les contrastes d'intensité lumineuse ont une place à part dans le fonctionnement physiologique de l'œil, notamment avec la présence des bâtonnets sur la rétine, et aussi que l'évolution de la bichromie vers la trichromie chez l'humain nous a précisément apporté la distinction des fruits rouges et de tout ce qui est rouge sur fond vert. Par contre, au-delà de ces contrastes primordiaux, blanc, noir, rouge, vert, les relations entre les couleurs et les significations qu'on leur donne sont profondément culturelles, chaque culture structurant les couleurs selon une combinatoire qui lui est propre. Mais s'il y a bien une opposition qu'on retrouve dans toutes les cultures, c'est celle du noir et du blanc, entendue non pas comme nuance de gris, mais bien le plus lumineux des blancs et la plus forte lumière et le plus profond des noirs, l'ombre la plus complète. Entre ces deux extrêmes, que nos rétines soient saturées de lumière ou au contraire qu'elles ne captent pas un photon, il n'y a plus le moindre détail à percevoir. Et ces deux couleurs, blanc et noir pur, sont couramment associées au vide, à l'absence de toute chose, au non-être qui peut être aussi bien ce qui précède l'existence et la naissance que ce qui la suit, la mort. Elles sont aussi naturellement associées aux états qui ne sont pas encore marqués par la vie, par l'histoire d'une existence, comme l'innocence, la virginité, la propreté ou l'innovation. Mais si ces associations du blanc et du noir au non-être semblent être quasiment universelles, elles sont culturellement interchangeables. Aujourd'hui, en Europe, le noir marque la mort et le deuil, tandis qu'en Asie, c'est le blanc. On voit que déjà, dans la symbolique du simple noir et du simple blanc, les variations culturelles sont parfois en opposition frontale, et ce cadre culturel est fondamental à l'interprétation de l'usage des couleurs, qui ne sont pas nécessairement utilisées pour leur valeur mimétique de représentation du monde, mais souvent aussi bien pour leur valeur symbolique que sociale. Si le manteau de la Vierge dans le monde chrétien au Moyen-Âge est généralement bleu, c'est parce que cette teinte y est associée à la virginité. Mais peindre ce bleu d'un véritable outre-mer ajoute une signification additionnelle tout aussi importante pour le peintre autant que le spectateur, parce que le pigment outre-mer est tiré du lapis-lazuli qui coûtait alors plus cher que l'or, et son usage était aussi indicateur de richesse, d'honneur donné, d'hommage ou de sacrifice. Et le carmin aussi, tiré de la cochenille, pouvait avoir la même signification pour les mêmes raisons, tout comme l'or des icônes. Cette fonction et cette signification sociale des couleurs sera aussi très importante à comprendre quand on observera les teintes des vêtements, qui en tout temps et en tout lieu ont toujours été un marqueur important du rang social de ceux qui les portent. C'est ce que nous allons explorer ensemble dans la suite du podcast. Aborder le thème de la couleur dans l'histoire de l'art, et d'ailleurs le simple fait d'évoquer l'histoire de l'art tout court, convoque généralement l'image de Léonard de Vinci. De Vinci était un génie des arts, bien qu'il n'ait peint que 20 à 30 toiles, mais aussi des sciences et des techniques, il était extrêmement curieux, extrêmement méticuleux, et il paraît donc évident que la couleur et la reproduction de la couleur fait partie de ses préoccupations majeures. Pour lui, la peinture est une cosa mentale, il la place au sommet des sciences et des artes liberales du Moyen-Âge. Ces artes liberales, les arts libéraux, sont les arts qu'on enseigne à l'université pendant le Moyen-Âge par opposition aux arts mécaniques et serviles, que sont par exemple la charpenterie, la menuiserie, la poterie. Ces arts libéraux sont divisés en deux catégories, le trivium, les trois chemins, qui concernent le pouvoir de la langue, à savoir la grammaire, la dialectique et la rhétorique, et le quadrivium, les quatre chemins, qui se rapportent au pouvoir des nombres, c'est-à-dire l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. Auquel De Vinci ajoute donc la peinture qu'il place au sommet de ses arts libéraux. La peinture trouve donc son origine pour lui dans un acte mental qui va bien au-delà de la simple imitation de la nature et de la reproduction du sujet. La peinture nécessite la compréhension scientifique du monde et du fonctionnement de l'univers, précédant l'acte manuel, l'exécution qui nécessite là un savoir-faire. L'intérêt de Vinci pour les sciences commence ainsi comme une nécessité préalable à son travail de peintre, et l'étude de les lumières fait donc partie de ces grands sujets qu'il aborde dans ses recherches picturales. À la sortie du Moyen-Âge, les peintres connaissent bien le principe du mélange qu'on dit « soustractif » des pigments, c'est-à-dire la possibilité, à partir d'un nombre réduit de couleurs qu'on qualifie de « primaires », généralement du bleu, du jaune et un rouge, la possibilité donc de produire un grand nombre de nouvelles couleurs grâce à un mélange en proportion qu'on maîtrise. Mais le mélange d'un nombre réduit de pigments, juste 3 comme ici, a tendance à désaturer les couleurs, et les peintres comme Léonard de Vinci complètent leur palette avec d'autres couleurs, d'autres pigments, afin d'obtenir des couleurs plus intenses, en particulier pour le vert. La première étape pour la reproduction des couleurs est donc de trouver les pigments, les composés chimiques qui pourront être dilués puis mélangés sur la palette avant d'être appliqués sur la toile. En ce début de Renaissance, on trouve principalement deux pigments pour le bleu, par exemple. L'azurite, qui est un minéral, qui est le plus courant, et aussi l'outremer, qu'on extrait du lapis lazuli, qui a un prix bien plus élevé, mais permet d'obtenir un bleu bien plus profond. On reviendra sur le bleu du lapis lazuli dans un autre épisode d'ailleurs. Pour le rouge, à l'époque, on utilise l'hématite, qu'on appelle aujourd'hui l'ocre rouge, qui est en fait de l'oxyde de fer, de la rouille, quoi. Mais aussi le cinabre, qu'on appelle aujourd'hui le vermillon, qui est du sulfure de mercure. Et le rouge kermès, qu'on fabrique à partir de la cochenille, un insecte. Le jaune, lui, était fait soit avec de l'ocre jaune, c'est-à-dire de l'oxyde de fer, encore une fois, mais hydraté, ou du jaune de plomb éteint, artificiel et beaucoup plus lumineux, mais un peu toxique. Et à ces pigments qui servaient de couleur primaire, Léonard de Vinci ajoute donc des jaunes qui sont organiques, comme le safran ou le curcuma, qui ont l'intérêt de rester transparents et lui permettent, en glacis, d'embellir les verres. Pour le vert, il affectionne le vert de gris, ce qu'on appelle aussi l'acétate de cuivre, qu'il faut pas confondre avec l'oxydation verte des sculptures et des toits en bronze, c'est pas la même chose. En tout cas, ce pigment, le vert de gris, est très fragile et il a tendance à brunir progressivement, et il a été abandonné par la suite à la Renaissance. Léonard de Vinci utilise aussi le blanc de plomb qui a une place importante sur la palette de tous les peintres de l'époque et qui sert de sous-couche en préparation de la surface pour la blanchir, que ce soit une toile ou du bois, sur laquelle on fera la peinture après, et ça sert aussi à éclaircir les pigments utilisés. Finalement, l'os, ou le bois calciné, permet aussi d'obtenir le carbone, qu'on appelle le fusain, qui forme le pigment noir. C'est d'ailleurs l'usage de ce carbone sur la sous-couche blanche de plomb qui permet de retrouver aujourd'hui les dessins préparatoires en dessous, entre guillemets, des peintures qui nous sont parvenues. En effet, ce noir en carbone absorbe les rayons infrarouges, alors que les pigments de peinture qui le recouvrent, eux, réfléchissent les infrarouges. Et donc on peut révéler ces dessins cachés grâce à ce qu'on appelle la réflectographie infrarouge. On découvre alors les modifications et les évolutions, ce qu'on appelle les repentirs, qui ont traversé les œuvres, et les nombreuses hésitations de Léonard de Vinci, par exemple dans l'Adoration des mages, que vous pouvez voir sur le site internet lafourmi.media. Une œuvre qu'il laissera inachevée. Alors que pour d'autres tableaux, le dessin préparatoire est précis et les différences avec le tableau final sont minimes. En tout cas, même les plus grands peuvent se retrouver dans des impasses créatives. Quoi qu'il en soit, la peinture ne se limite pas à l'application de pigments. Le choix du médium, le composant qui permet de diluer puis de solidifier les pigments est essentiel, et la pratique de Léonard de Vinci a beaucoup évolué tout au long de ses recherches. Malheureusement, on n'a que très peu d'informations sur ses formules, parce qu'il avait probablement cherché à en garder l'exclusivité, bien qu'il ait mentionné en tout cas l'usage de l'huile de lin ou de l'huile de noix, ou encore de la térébenthine en résine ou en essence. Léonard de Vinci, suite à son étude méticuleuse de l'ombre et de la lumière, a aussi théorisé le sfumato. C'est une technique qui donne des contours imprécis en utilisant un glacis en peinture à l'huile, en posant successivement de fines couches colorées transparentes et parfaitement lisses sur une couche déjà sèche. Le glacis produit un effet de profondeur, à condition que la couche soit parfaitement lisse, sans aucune trace de pinceau, et que l'œuvre soit observée dans une certaine pénombre, sous un éclairage latéral. On trouve d'ailleurs aucune trace de pinceau sur les œuvres de Vinci. On pense qu'il les estompait avec le doigt, et on a ainsi d'ailleurs retrouvé des empreintes digitales sur certaines de ses peintures, notamment le Saint-Jérôme du Vatican. Léonard de Vinci reproduit comme ça ses observations sur les passages insensibles de l'ombre à la lumière qui effacent les contours, qui donnent un aspect vaporeux aux formes, d'où le nom de sfumato qui veut dire enfumé en italien, et qui suggère l'atmosphère environnante. Cette technique sera utilisée tout au long de la Renaissance, notamment par Vermeer dans La Laitière, que vous connaissez tous, je pense. Daniel Barbaro, un cardinal vénitien intellectuel, écrit en 1556 que le sfumato, c'est faire le contour doux et enfumé afin que se comprenne ce qui ne se voit pas. En supprimant les détails et la précision, l'artiste laisse le spectateur projeter sa propre expérience. C'est d'ailleurs quelque chose que j'enseigne à mes étudiants. Quand on veut faire une image qui paraît extrêmement détaillée et réaliste, il faut en fait ne pas tout montrer. En utilisant l'ambiance, l'atmosphère, la couleur, la lumière, on peut cacher des détails et laisser le spectateur projeter sa propre expérience dans la peinture, compléter de lui-même ce qu'il ne voit pas. Et le secret d'une image qui paraît détaillée vient parfois précisément du fait que tous les détails n'ont pas été peints. Le cerveau ne supporte pas le vide et passe son temps à compléter les trous de manière complètement inconsciente et automatique, c'est de ça qu'on profite. C'est au 19e siècle seulement, par les romantiques, excepté Ingres, puis le courant réaliste, en particulier Courbet, et les impressionnistes, que cette technique a progressivement été simplifiée, voire abandonnée. Il faut en effet, entre chaque couche du glacis, plusieurs jours, voire plusieurs semaines de séchage, ce qui en dit beaucoup sur la méticulosité de Léonard de Vinci. Et les romantiques, au 19e, eux, préfèrent la spontanéité de la touche, laissant visibles les coups de pinceau et la matière. Tout ça nous montre bien en tout cas que le travail du peintre va bien au-delà de la simple reproduction des formes et des couleurs, de la matière, et la manière dont l'œuvre réfléchit la lumière importe tout autant que le choix du pigment. Ce que malheureusement Léonard de Vinci ne savait pas, c'est que les vernis protégeant les œuvres finiraient par vieillir et leur donner une teinte terne et ambrée. Les couleurs de la Joconde qu'on connaît aujourd'hui, que vous pouvez voir au Louvre, sont loin des bleus éclatants qu'il a travaillés dans le ciel derrière Lisa del Giocondo. On peut cependant restaurer les couleurs d'origine en amincissant la couche de vernis qui a jauni pour le remplacer par un nouveau vernis, mais c'est pas toujours possible, d'autant plus que la restauration ne doit surtout pas toucher aux couches de pigments. Des techniques modernes d'analyse du spectre lumineux réfléchi par la toile permettent aussi d'effectuer des retouches sur une version numérisée, et s'il n'est alors plus possible d'admirer le travail méticuleux de la matière et de la texture, on peut se faire une idée en numérique des couleurs d'origine. Vous pourrez voir ça, encore une fois, sur le site internet du podcast, lafourmi.media, les deux versions de la Joconde, celle telle qu'on la voit dans le musée, et une restauration numérique qui fait apparaître les bleus du ciel et du lac derrière elle. Ces pigments connus depuis la préhistoire et l'Antiquité et les retouches numériques du 21e siècle se rejoignent, se télescopent ici et ne s'éloignent jamais de l'observation scientifique du monde. Et c'est cette histoire de la reproduction des couleurs que je vous invite à parcourir avec moi dans la suite du podcast. Prenons les choses par leur commencement et revenons sur les pigments. Il est impossible de savoir précisément quand les humains modernes, ni même laquelle des 15 espèces actuellement connues du genre Homo, ont commencé à produire les premières images colorées artificielles. On a longtemps cru que Homo sapiens, l'homme moderne, était l'auteur des premiers arts pariétaux dans une habituelle forme d'anthropocentrisme, on pourrait même dire ici plutôt... d'homo sapiensocentrisme, mais de nouvelles méthodes de datation ayant vu le jour récemment ont repoussé les plus anciennes traces de peinture connues, réparties dans trois grottes en Espagne, à plus de 64 800 ans avant notre ère, c'est-à-dire 20 000 ans avant l'arrivée de l'homme moderne en Europe de l'Ouest. Ce n'est donc pas notre espèce qui a inventé la peinture. On attribue aujourd'hui ces premières peintures pariétales à l'homme de Néandertal. Il est difficile de dire si ces premières colorations artificielles font véritablement l'objet d'un choix de teinte ou si les pigments ont été utilisés juste pour des raisons pratiques, afin de simplement représenter des formes, tout comme elles peuvent l'être grâce à la gravure ou la sculpture. Il semble d'ailleurs, chose intéressante, que ce soit le son plus que la couleur qui a joué une grande importance dans l'élaboration de certaines de ces peintures préhistoriques. Yegor Reznikov, un mathématicien et musicologue français, a décrit comment, dans plusieurs grottes, les endroits qui résonnent le plus sont les mieux dotés en peinture, en particulier quand les échos de certains sons peuvent rappeler les cris d'animaux. Des points rouges marquent souvent les emplacements avec un maximum de résonance, et la concordance entre ces points et les résonances atteint 99% dans de nombreuses grottes. Quoi qu'il en soit, ces premières peintures sont monochromes ou bichromes, et il semble que le premier pigment à usage artificiel humain ait été l'ocre rouge. C'est une terre argileuse et siliceuse à laquelle des oxydes de fer rouge donnent la couleur et qu'on peut utiliser à l'état naturel, mais qu'on obtient aussi plus fréquemment par la calcination de l'ocre jaune, une terre semblable mais colorée par un autre pigment, la goethite, un autre oxyde de fer. Ces pigments particuliers, en tout cas, accompagnent les espèces humaines depuis au moins 66 000 ans Et n'étant pas toxiques et de grande longévité, ils sont toujours appréciés aujourd'hui, aussi bien en décoration que pour les beaux-arts ou la maçonnerie. Bien avant de servir de pigment pour la peinture dans les grottes, l'ocre était d'ailleurs déjà utilisé et gravé. La plus ancienne trace d'usage de l'ocre remonte à 250 000 ans, encore une fois par Néandertal et non pas l'homme moderne Homo sapiens, en Europe de l'Ouest. On retrouve aussi des fragments d'ocre gravés en Afrique australe datant de 77 000 ans. Un peu plus tard, les Vénus paléolithiques, ces statuettes féminines sculptées par Homo sapiens en ivoire, en pierre tendre ou bien en terre cuite, dont la plus ancienne est datée de 35 000 à 40 000 ans, on pense qu'elles étaient toutes peintes, montrant là un usage ancien de la couleur en tant que telle, tout en accompagnant la naissance de l'art figuratif. L'ocre des peintures pariétales était aussi accompagné de colorants noirs, soit de l'oxyde de fer noir, qu'on retrouve à l'état naturel sous forme de magnétite, un métal noir généralement aimanté, soit du carbone. Et c'est là comment l'humain a utilisé les tout premiers pigments dérivés du quatrième élément le plus abondant sur Terre, le fer, et du quatrième élément le plus abondant de l'univers, le carbone. Les premières couleurs de l'histoire de l'art sont donc le rouge et le noir. C'est un peu plus tard, il y a 21 000 ans environ, qu'était peinte ce qu'on appelle aujourd'hui la chapelle Sixtine de l'art pariétal. C'est la grotte de Lascaux qui est exceptionnelle par le nombre et la qualité de ses peintures, de ses gravures, de ses représentations d'aurochs, dont certains mesurent jusqu'à 5 mètres, de ses chevaux, de ses cerfs, de son unique ours, des bouquetins, des bisons, d'un seul renne, d'un rhinocéros et d'un homme à tête d'oiseau, ainsi que de quelques signes indéchiffrables. Cet homme à tête d'oiseau et ce rhinocéros font d'ailleurs partie d'une scène construite avec un bison apparemment blessé, et non d'une simple juxtaposition d'éléments sur une même paroi, comme c'est plus souvent le cas dans l'art pariétal. Cette scène, dont je vous ai mis une photo sur le site internet du podcast, cette scène renvoie probablement à un épisode mythologique, mais dont la signification reste mystérieuse. Ces œuvres sont aussi un des premiers exemples de polychromie, et on y découvre de nombreuses couleurs en plus de celles que j'ai déjà citées. Le noir du dioxyde de manganèse, un minéral naturel qu'on utilise toujours en céramique pour la fabrication des tuiles. Le rouge de l'hématite, encore un autre oxyde de fer qui a plus tard servi de pigment dans l'Antiquité et aussi chez les Mayas. Le blanc de calcite, un carbonate de calcium, ce qu'on appelle la chaux, et dont une variété cristallisée, le spat d'Irlande, a été très étudiée pour ses propriétés optiques, notamment par Christian Huygens, dont on a pu parler dans les tout premiers épisodes du podcast. Ce cristal, le spat, aurait pu servir de pierre de soleil pour les Vikings, qui leur aurait permis de s'orienter en mer par temps couvert comme un moyen de localiser le soleil en exploitant la polarisation de la lumière. C'est une hypothèse crédible, mais elle n'est pas prouvée. En tout cas, tous ces pigments utilisés dans la grotte de Lascaux étaient des pigments naturels, utilisés tels quels, sans transformation. Le premier pigment artificiel sera fabriqué seulement 15 000 ans plus tard en Égypte. Malheureusement, en l'absence de transmission écrite des traditions et des mythes, ces multiples usages de la couleur ne peuvent pas être interprétés ni expliqués aujourd'hui, et il faudra attendre l'Antiquité pour découvrir la symbolique derrière l'usage de tous ces pigments et le développement de la fabrication des premiers pigments artificiels. C'est ce que je vous raconte dans l'épisode de la semaine prochaine, où je vous invite à me suivre dans un voyage d'est en ouest au pays des couleurs avant de revenir en Europe découvrir les évolutions des couleurs depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'informatique dans les épisodes qui suivront. Merci infiniment de votre écoute. N'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux sociaux et auprès de vos amis, de votre famille, de vos collègues, de votre entourage. Mettez une petite note, des étoiles, des petits cœurs, des commentaires sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça va aider d'autres gens à découvrir ce podcast. Merci encore et à la semaine prochaine pour l'Antiquité des couleurs. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast.
The more I hear about this, I mean, it just gets crazier and crazier.